L'évangile de Noël nous donne en réalité deux mystères à contempler, deux mystères différents que sont la naissance de Jésus et l'annonce de cette naissance par les anges aux bergers. Ce sont deux événements qui ont lieu de façon simultanée, dans des lieux différents. Ce qu'on imagine être une étable pour Jésus à cause de la mangeoire, et puis l'évangile dit dans la même région, c'est-à-dire dans les champs où les bergers étaient là à garder leurs troupeaux. Deux événements que nous estimons et que nous affirmons simultanés, parce que le propre des anges, c'est d'avoir la connaissance immédiate. Ils ne vivent pas comme nous dans la succession des événements, ils ont la connaissance immédiate, et ils peuvent donc l'annoncer au moment même de sa naissance, dans un lieu différent. Deux événements simultanés dans deux lieux différents, ce qui fait que, dans les représentations qu'on en fait, certains peintres n'en ont choisi qu'un seul. Par exemple, l'annonce au berger, c'est le cas en particulier d'une gravure de Rembrandt, que Rembrandt a réalisée en 1634, qui se trouve au musée du Louvre. J'ai préparé Noël en méditant, en regardant, en contemplant cette gravure, où dans la partie, je peux vous la décrire, c'est facile à imaginer, la partie supérieure gauche, il y a l'ange du Seigneur, comme on peut le représenter sur une nuée, un halo de lumière étincelant, avec une petite foule de petits angelots qui sont tout autour, l'ange à la main levée, non pas pour bénir, mais plutôt pour calmer ce qui se passe dans la clairière en contrebas avec les bergers et leurs animaux, c'est la panique! Ils furent saisis d'une grande crainte, l'affolement. Les hommes aussi affolés que les animaux, les moutons bien sûr, et puis il y a aussi deux vaches. Pas parce que Rembrandt était hollandais, mais on peut se dire que s'il y a un bœuf dans la crèche, il y a des vaches dans les prés. Et s'il y a aussi un âne dans la crèche, il doit y avoir aussi des mouches, mais ça importe peu. C'est la panique, je vous dis, c'est la panique. Et le plus remarquable dans la représentation, c'est l'ange est magnifique et les personnages sont tout petits. Tout petits. Et je pensais à un passage fameux de la Bible qui est le retour des éclaireurs que Moïse avait envoyés en terre promise. Et qui était revenu émerveillé par la terre promise, et puis émerveillé, puis terrifié, il disait « Oh là là, on a vu des géants! On a vu des géants là-bas !» Et à côté d'eux, on ressemblait, il aurait pu dire à des mouches, il disait, on ressemblait à des sauterelles, on paraissait tout petits. Et il faut reconnaître, mes amis, qu'à l'échelle de l'univers, nous sommes quand même tout petits. Pas seulement au regard des géants, tout petits, sauf aux yeux de Dieu, nous sommes grands aux yeux de Dieu. Nous sommes grands aux yeux de Dieu au point que Dieu se soit fait l'un de nous. Faut-il que nous ayons de l'importance aux yeux de Dieu, plus que cela? Faut-il que nous ayons une grandeur immense que nous négligeons, dont nous n'avons pas conscience, pour que Dieu se soit fait l'un de nous? Rembrandt avait différents élèves, plus ou moins doués, plus ou moins fameux. Il y en a un qui s'appelle Govertz Flink, probablement le plus doué, en tout cas qui a eu le plus de succès ensuite, qui a fait un remake après avoir quitté le maître. Le remake, ce n'est pas le terme qu'il faut, mais il a fait la même chose que cette gravure, mais un tableau en couleur qui se trouve également au Louvre, qui représente à peu près exactement la même scène, sauf qu'il est à la verticale et plus à l'horizontale, on pourrait dire à l'italienne, et puis surtout, l'ambiance a changé. Autant l'atmosphère de la gravure de Rembrandt est saisissante et fantastique, autant la peinture est douce, dorée, apaisante. Bien sûr que les bergers sont surpris, certainement craintifs, mais ça reste relativement calme. Il s'enfuit plus, ça court plus dans tous les sens. Et un historien de l'art explique que cet apaisement de ce qu'il appelle l'emphase des excès de Rembrandt, c'est caractéristique des élèves du maître. L'élève n'est pas plus grand que le maître, dit Jésus. Il est grand quand il s'inspire de son maître et que dans certains cas, il l'adoucit. Alors cette scène était tellement magnifique que je me suis dit, tiens, je vais la prendre comme devant d'hôtel. Si vous venez régulièrement ici, vous savez que pour les fêtes, et en particulier pour Noël, je mets toujours une image en devant d'hôtel qui sert de fond à la crèche. Et je me suis dit, j'allais prendre cela. Ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez, il y avait les toits de Paris. Les années précédentes, il y avait une belle scène de montagne et de neige. Ça faisait rêver. Avant, il y avait la mer. Alors, chaque fois, on me disait, « Ah, vous avez envoyé Jésus à la montagne. Cette année, Jésus est à la mer. » On me taquinait, mais au moins, ça faisait une variété, au moins, de la création. Et tandis qu'au carême, je prends des images un peu plus austères. Et ceux qui étaient venus se souviennent qu'il y avait une image quasi prophétique parce que c'était une vue d'un monastère qui se trouve sur une route entre Jérusalem et Jéricho, et qui est blotti dans le creux des rochers, exactement ce que nous avons vécu cette année pendant le confinement. Et puis j'ai renoncé à prendre cette scène, non pas à cause de l'air pétrifié des bergers, mais parce que ce qui est le plus important, c'est que les anges, ils viennent chercher les bergers pour les amener à Jésus. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passe ce soir. Il y a des parents qui sont venus chercher leurs enfants pour les amener à la messe. Il y a des amis qui sont venus chercher leurs copains pour les amener à Jésus. C'est ce qui se passe dans notre vie. Et nous sommes des anges chaque fois que nous amenons quelqu'un à Jésus, c'est-à-dire à l'amour, à la beauté, à la grandeur, au respect, à ce qu'il y a de plus grand dans la vie. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que c'est qu'un ange qui conduit des bergers. Et j'ai pris comme fond d'hôtel, comme devant d'hôtel, cette belle image que vous avez, une belle image avec ce torrent, vif sans être impétueux, vous voyez, qui se fraye un passage à travers des rochers couverts de végétation. C'est l'image dont nous avions besoin cette année, particulièrement ces dernières semaines, un peu de fraîcheur. Il fallait respirer. On ne pouvait pas tous partir ni à la mer, ni à la montagne, ni dans la lune. Il fallait respirer une image de fraîcheur. Ce torrent, en plus, c'est exactement comme ça que commence le premier livre de prière de la Bible, ce qu'on appelle le psautier. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, qui se plaît dans la parole du Seigneur, il est comme un arbre planté au bord d'un torrent, jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Et vous savez que dans la Bible, elles sont très nombreuses les images de sources d'eau vive. C'est un peuple qui vivait dans le désert et qui savait la valeur de cela. Mais nous savons tous, nous avons tous en mémoire ces images somptueuses, des sources d'eau vive. Il y a, pour ceux qui étaient à des baptêmes, il n'y a pas si longtemps, il y a un texte d'Ézéchiel qui parle de l'eau qui sort du côté du temple et qui vient tout assainir toutes les régions qu'il parcourt. Et puis la plus belle image probablement, c'est celle que dit Jésus dans le temple de Jérusalem lorsqu'il annonce que de son cœur jailliront des sources d'eau vive. Son cœur sacré, ce cœur qui a tant aimé le monde, les sources d'eau vive, l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et il y a une formule qui résume toutes ces images de sources d'eau vive, c'est un des titres de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, adoucissante fraîcheur. Adoucissante fraîcheur, c'est le message de Noël. Les cieux se sont ouverts pour délivrer enfin l'espérance. Car si la fête de Pâques célèbre notre salut, notre rédemption, notre libération, la fête de Noël, c'est la promesse d'une création nouvelle, d'une création renouvelée. C'est même, d'une certaine façon, ça fait partie du mot messe, de l'acronyme ou l'acrostiche. Vous savez, vous avez joué à ça, une sorte de mini abécédaire quand on prend les lettres d'un mot pour en faire une phrase. Par exemple, pour Noël, N-O-E-L, pour certains, c'est « Nous oublions l'Éternel et sa louange ». Vous pourrez jouer à ça ce soir, vous prenez un mot, Noël, faites une phrase qui soit autre que « Nous oublions l'Éternel et sa louange ». Eh bien, à nous tous qui sommes venus adorer l'enfant Jésus, le mot « messe », il revêt une signification particulière aujourd'hui. C'est un message écologique, symbolique, spirituel d'espérance. C'est d'abord un message d'espérance, mais les trois termes écologique, symbolique, spirituel, sont quasiment trinitaires. Écologique, c'est la promesse d'une création nouvelle, c'est l'œuvre du Père. Symbolique, c'est le fait navrant qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est l'annonce de la passion du Fils. Et puis spirituel, c'est le don de l'Esprit, la joie de l'Esprit Saint, Dieu qui se révèle aux tout petits. Voilà ce que nous célébrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la venue de Dieu parmi les hommes. Un Sauveur nous est né, c'est le mystère de la Trinité et c'est la joie de l'humanité. On ne peut pas rêver plus beau cadeau de Noël que ce message d'espérance. Adoucissante fraîcheur.